Les dernières paroles de Decius Mus. Ce matin, en bouquinant sur les quais, je trouvais dans la boîte à deux sous un tome dépareillé de Tite-Live. Comme je le feuilletais au hasard, je tombai sur cette phrase « Les débris de l'armée romaine gagnèrent Canusium à la faveur de la nuit ». Et cette phrase me rappela le souvenir de M. Chotard. Or, quand je pense à M. Chotard, c'est pour un bon moment. Je pensais encore à lui en rentrant à la maison à l'heure du déjeuner. Et comme j'avais un sourire aux lèvres, on m'en demanda la cause. « Ah, la cause, mes enfants, c'est M. Chotard. »« Mais quel est ce Chotard qui te fait sourire ?»« Je vais vous le dire. Si je vous ennuie, faites semblant d'écouter et laissez-moi croire que ce n'est pas à lui-même que l'entêté conteur conte ses histoires. J'avais 14 ans et j'étais en 3e. Mon professeur, qui se nommait Chotard, avait le teint fleuri d'un vieux moine, et c'en était un. Frère Chotard, après avoir été une des plus douces ouailles du bercail de Saint-François, jeta en 1830 le froc aux orties et prit l'habit des laïcs, sans réussir toutefois à le porter avec élégance. Quelle raison eut frère Chotard d'agir ainsi? Les uns disent que ce fut l'amour, les autres disent que ce fut la peur, et qu'après les trois glorieuses, le peuple souverain, ayant jeté quelques trognons de choux aux capucins de le frère Chotard sauta par-dessus les murs du couvent pour épargner à ses persécuteurs un aussi gros péché que de malmener un capucin. Ce bon frère était un savant homme. Il prit ses grades, donna des leçons, et vécut tant et si bien qu'il grisonnait déjà des cheveux, florissait des joues et rougeoyait du nez quand je fus amené avec mes camarades au pied de sa chaire. Quel bel iqueux professeur de 3e nous avions là! Il fallait le voir lorsque, texte en main, il conduisait à Philippe les soldats de Brutus. Quel courage! Quelle grandeur d'âme! Quel héroïsme! Mais il choisissait son temps pour être un héros, et ce temps n'était pas le temps présent. M. Chotard se montrait inquiet et craintif dans le cours de la vie. On l'effrayait facilement. Il avait peur des voleurs, des chiens enragés, du tonnerre, des voitures, et de tout ce qui peut, de près ou de loin, endommager le cuir d'un honnête homme. Il est vrai de dire que son corps seul demeurait parmi nous. Son âme était dans l'Antiquité. Il vivait, cet excellent homme, aux Thermopyles avec Léonidas, dans la mer de Salamine, sur la nef de Thémistocle. Dans les champs de Cannes, près de Polémile. Il tombait tout sanglant dans le lac Trasimène, où plus tard un pêcheur trouvera son anneau de chevalier romain. Il bravait à Pharsale César et les dieux. Il brandissait son glaive rompu sur le cadavre de Varus, dans la forêt Hercynie. C'était un fameux homme de guerre. Résolu à vendre chèrement sa vie sur les bords de l'Aligos Potamos, et fier de vider la coupe libératrice dans Numance assiégée, M. Chotard ne dédaignait nullement de recourir, avec les rusés capitaines, aux stratagèmes les plus perfides. Un des stratagèmes qu'il faut recommander, nous dit un jour M. Chotard en commentant un texte d'Élien, est d'attirer l'armée ennemie dans un défilé et de l'y écraser sous des quartiers de roc. Il ne nous dit point si l'armée ennemie avait souvent l'obligeance de se prêter à cette manœuvre, mais j'ai hâte d'en venir au point par lequel Chotard s'illustra dans les esprits de tous ses élèves. Il nous donnait, pour sujet de composition tant latine que française, des combats, des sièges, des cérémonies expiatoires et propitiatoires, et c'est en dictant le corrigé de ses narrations qu'il déployait toute son éloquence. Son style et son débit exprimaient dans les deux langues la même ardeur martiale. Il lui arrivait parfois d'interrompre le cours de son idée pour nous dispenser des punitions méritées, mais le temps de savoir restait héroïque jusque dans ses incidences. En sorte que, parlant tour à tour avec le même accent, comme un consul qui exhorte ses troupes et comme un professeur de troisième qui distribue des pinsommes, il jetait les esprits des élèves dans un trouble d'autant plus grand qu'il était impossible de savoir si c'était le consul ou le professeur qui parlait. Il lui arriva un jour de se surpasser dans ce genre par un discours incomparable. Ce discours, nous le sûmes tous par cœur. J'eus soin de l'écrire sur mon cahier sans en rien omettre. Le voici, tel que je l'entendis, tel que je l'entends encore, car il me semble que la voix grasse de M. Chotard résonne encore à mes oreilles et les emplit de sa sonalité monotone. Dernière parole de Decius Mus. Près de se dévouer au dieu Man et pressant déjà de l'éperon les flancs de son coursier impétueux, Decius Mus se retourna une dernière fois vers ses compagnons d'armes et leur dit: si vous n'observez pas mieux le silence, je vous infligerai une retenue générale. J'entre pour la patrie dans l'immortalité. Le gouffre m'attend. Je vais mourir pour le salut commun. Monsieur Fontanet, vous me copierez 10 pages de rudiments. Ainsi l'a décidé dans sa sagesse Jupiter Capitolinus, l'éternel gardien de la ville éternelle. Monsieur Nozière, si comme il me semble vous passez encore votre devoir à M. Fontanet pour qu'il le copie selon son habitude, j'écrirai à M. votre père. Il est juste et nécessaire qu'un citoyen se dévoue pour le salut commun. Enviez-moi et ne me pleurez pas. Il est inepte de rire sans motif, M. Nozière. Vous serez consigné jeudi. Mon exemple vivra parmi vous. Messieurs, vos ricanements sont d'une inconvenance que je ne puis tolérer. J'informerai monsieur le proviseur de votre conduite, et je verrai du sein de l'Élysée, ouvert aux mânes des héros, les vierges de la République suspendre des guirlandes de fleurs au pied de mes images. J'avais, en ce temps-là, une prodigieuse faculté de rire. Je l'exerçais tout entière sur les dernières paroles de Decius Mus, et quand après nous avoir donné le plus puissant motif de rire, M. Chotard ajouta qu'il est inepte de rire sans motif, je me cachai la tête dans un dictionnaire et perdis le sentiment. Ceux qui n'ont pas été secoués à 15 ans par un fou rire sous une grêle de pinsomme ignorent une volupté. Mais il ne faut pas croire que j'étais capable seulement de muser en classe. J'étais à ma manière un bon petit humaniste. Je sentais avec beaucoup de force qu'il y a d'aimable et de noble dans ce qu'on appelle si bien les belles lettres. J'avais dès lors un goût du beau latin et du beau français que je n'ai pas encore perdu malgré les conseils et les exemples de mes plus heureux contemporains. Il m'est arrivé à cet égard ce qui arrive communément aux gens dont les croyances sont méprisées, je me suis fait un orgueil de ce qui n'était peut-être qu'un ridicule. Je me suis entêté dans ma littérature et je suis resté un classique. On peut me traiter d'aristocrate et de mandarin. Mais je crois que 6 ou 7 ans de culture littéraire donnent à l'esprit bien préparé pour la recevoir une noblesse, une force élégante, une beauté qu'on n'obtient point par d'autres moyens. Quant à moi, j'ai goûté avec délice Sophocle et Virgile. Monsieur Chotard, je l'avoue, Monsieur Chotard, aidé de Tite-Live, m'inspirait des rêves sublimes. L'imagination des enfants est merveilleuse, et il passe de bien magnifiques images dans la tête des petits polissons. Quand il ne me donnait pas un fou rire, Monsieur Chotard me remplissait d'enthousiasme. Chaque fois que de sa voix grasse le vieux sermonnaire, il prononçait lentement cette phrase: les débris de l'armée romaine gagnèrent Canusium à la faveur de la nuit, je voyais passer en silence à la clarté de la lune dans la campagne nue, sur une voie bordée de tombeaux, les visages livides, souillés de sang et de poussière, des casques bossués, des cuirasses ternies et faussées, des glaives rompus. Et cette vision à demi voilée, qui s'effaçait lentement, était si grave, si morne et si fière, que mon cœur en bondissait de douleur et d'admiration dans ma poitrine. Les humanités. Je vais vous dire ce que me rappellent tous les ans le ciel agité de l'automne, les premiers dîners à la lampe et les feuilles qui jaunissent dans les arbres qui frissonnent. Je vais vous dire ce que je vois quand je traverse Luxembourg dans les premiers jours d'octobre, alors qu'il est un peu triste et plus beau que jamais, car c'est le temps où les feuilles tombent une à une sur les blanches épaules des statues. Ce que je vois alors dans ce jardin, c'est un petit bonhomme qui, les mains dans les poches et sa gypsière au dos, s'en va au collège en sautillant comme un moineau. Ma pensée seule le voit, car ce petit bonhomme est une ombre. C'est l'ombre du moi que j'étais il y a 25 ans vraiment. Il m'intéresse, ce petit. Quand il existait, je ne me souciais guère de lui, mais maintenant qu'il n'est plus, je l'aime bien. Il valait mieux, en somme, que les autres moi que j'ai eus après avoir perdu celui-là. Il était bien étourdi, mais il n'était pas méchant, et je dois lui rendre cette justice qui ne m'a pas laissé un seul mauvais souvenir. C'est un innocent que j'ai perdu. Il est bien naturel que je le regrette. Il est bien naturel que je le voie en pensée et que mon esprit s'amuse à ranimer son souvenir. Il y a 25 ans, à pareille époque, il traversait, avant 8 heures, ce beau jardin pour aller en classe. Il avait le cœur un peu serré, c'était la rentrée. Pourtant, il trottait, ses livres sur son dos et sa toupie dans sa poche. L'idée de revoir ses camarades lui remettait de la joie au cœur. Il avait tant de choses à dire et à entendre. Ne lui fallait-il pas savoir si la Boriette avait chassé pour de bon dans la forêt de l'Aigle? Ne lui fallait-il pas répondre qu'il avait, lui, monté à cheval dans les montagnes d'Auvergne? Quand on fait une pareille chose, ce n'est pas pour la tenir cachée. Et puis c'est si bon de retrouver des camarades. Combien il lui tardait de revoir Fontanet, son ami, qui se moquait si gentiment de lui. Fontanet qui, pas plus gros qu'un rat et plus ingénieux qu'Ulysse, prenait partout la première place avec une grâce naturelle. Il se sentait tout léger à la pensée de revoir Fontanet. C'est ainsi qu'il traversait le Luxembourg dans l'air frais du matin. Tout ce qu'il voyait alors, je le vois aujourd'hui. C'est le même ciel et la même terre. Les choses ont leur âme d'autrefois, leur âme qui m'égaye et m'attriste et me trouble. Lui seul n'est plus. C'est pourquoi, à mesure que je vieillis, je m'intéresse de plus en plus à la rentrée des classes. Si j'avais été pensionnaire dans un lycée, le souvenir de mes études me serait cruel et je le chasserais. Mais mes parents ne me mirent point à ce bagne. J'étais externe dans un vieux collège un peu monacal et caché. Je voyais chaque jour la rue et la maison. Elle n'était point retranchée comme les pensionnaires de la vie publique et de la vie privée. Aussi, mes sentiments n'étaient point d'un esclave. Ils se développaient avec cette douceur et cette force que la liberté donne à tout ce qui croit en elle. Il ne s'y mêlait pas de haine. La curiosité y était bonne, et c'est pour aimer que je voulais connaître. Tout ce que je voyais en chemin dans la rue, les hommes, les bêtes, les choses, contribuait plus qu'on ne saurait croire à me faire sentir la vie dans ce qu'elle a de simple et de fort. Rien ne vaut la rue pour faire comprendre à un enfant la machine sociale. Il faut qu'il ait vu au matin les laitières, les porteurs d'eau, les charbonniers. Il faut qu'il ait examiné les boutiques de l'épicier, du charcutier, du marchand de vin. Il faut qu'il ait vu passer les régiments, musique en tête. Il faut enfin qu'il ait humé l'air de la rue, pour sentir que la loi du travail est divine et qu'il faut que chacun fasse sa tâche en ce monde. J'ai conservé de ces courses du matin et du soir, de la maison au collège et du collège à la maison, une curiosité affectueuse pour les métiers et les gens de métier. Je dois avouer pourtant que je n'avais pas pour tous une amitié égale. Les papetiers qui étalent à l'aventure de leur boutique des images d'Épinal furent d'abord mes préférés. Que de fois, le nez collé contre la vitre, j'ai lu d'un bout à l'autre la légende de ces petits drames figurés. J'en connus beaucoup en peu de temps. Il y en avait de fantastiques qui faisaient travailler mon imagination et développer en moi cette faculté sans laquelle on ne trouve rien, même en matière d'expérience et dans le domaine des sciences exactes. Il y en avait qui, représentant les existences sous une forme naïve et saisissante, me firent regarder pour la première fois la chose la plus terrible, ou pour mieux dire la seule chose terrible, la destinée. Enfin, je dois beaucoup aux images d'Épinal. Plus tard, à 14 ou 15 ans, je ne m'arrêtais plus guère aux étalages des épiciers dont les boîtes de fruits confits pourtant me semblèrent longtemps admirables. Je dédaignais les merciers et ne cherchais plus à deviner l'essence de l'énigmatique qui brille en or sur leur enseigne. Je m'arrêtais à peine à déchiffrer les rébus naïfs figurés sur la grille historiée des vieux débits de vin où l'on voit un coin ou une comète en fer forgé. Mon esprit, devenu plus délicat, ne s'intéressait plus qu'aux échoppes d'estampes, aux étalages de bric-à-brac et aux boîtes de bouquins. Oh, vieux juif sordide de la rue du Cherche-Midi, naïf bouquiniste des quais, mes maîtres, que je vous dois de reconnaissance! Autant et mieux que les professeurs de l'université, vous avez fait mon éducation intellectuelle. Braves gens, vous avez étalé devant mes yeux ravis les formes mystérieuses de la vie passée et toutes sortes de monuments précieux de la pensée humaine. C'est en furetant dans vos boîtes, c'est en contemplant vos poudreux étalages chargés des pauvres reliques de nos pères et de leurs belles pensées que je me pénétrai insensiblement de la plus saine philosophie. Oui, mes amis, à pratiquer les bouquins rongés des vers, les ferrailles rouillées, les boiseries vermoulues que vous vendiez pour vivre, j'ai pris tout enfant un profond sentiment de l'écoulement des choses et du néant de tout. J'ai deviné que les êtres n'étaient que des images changeantes dans l'universelle illusion, et j'ai été dès lors enclin à la tristesse, à la douceur et à la pitié. L'école en plein vent m'enseigna, comme vous voyez, de hautes sciences. L'école domestique me fut plus profitable encore. Les repas en famille, si doux quand les carafes sont claires, la nappe blanche et les visages tranquilles, le dîner de chaque jour avec sa causerie familière, donnent à l'enfant le goût et l'intelligence des choses de la maison, des choses humbles et saintes de la vie. S'il a le bonheur d'avoir comme moi des parents intelligents et bons, les propos de table qu'il entend lui donnent un sens juste et le goût d'aimer. Il mange chaque jour de ce pain béni que le Père spirituel rompit et donna aux pèlerins dans l'auberge d'Emmaüs. Et il se dit comme eux, mon cœur est tout chaud en dedans de moi. Les repas que les pensionnaires prennent au réfectoire n'ont point cette douceur et cette vertu. Oh, la bonne école que l'école de la maison! Pourtant, on entrerait bien mal dans ma pensée si l'on croyait que je méprise les études classiques. Je crois que pour former un esprit, rien ne vaut l'étude des deux antiquités, d'après les méthodes des vieux humanistes français. Ce mot d'humanité, qui veut dire élégance, s'applique bien à la culture classique. Le petit bonhomme dont je vous parlais tout à l'heure avec une sympathie qu'on me pardonnera peut-être, en songeant qu'elle n'est point égoïste et que c'est à une ombre qu'elle y va, ce petit bonhomme, qui traversait le Luxembourg en sautant comme un moineau, était, je vous prie de le croire, un assez bon humaniste. Il goûtait en son âme enfantine la force romaine et les grandes images de la poésie antique. Tout ce qu'il voyait et sentait dans sa bonne liberté d'externe qui flâne aux boutiques et dîne avec ses parents ne le rendait point insensible au beau langage qu'on enseigne au collège. Loin de là, il se montrait aussi attique et aussi cicéronien, peu s'en faut, qu'on peut l'être dans une troupe de petits grimauds réglés par d'honnêtes barbarcoles. Il travaillait peu pour la gloire et ne brillait guère sur les palmarès, mais il travaillait beaucoup pour que cela l'amusât, comme disait La Fontaine. Ses versions étaient fort bien tournées, ses discours latins eussent mérité les louanges même de monsieur l'inspecteur, sans quelque solécisme qui les déparait généralement. Ne vous a-t-il pas déjà conté qu'à 12 ans, les récits de Tite-Live lui arrachaient des larmes généreuses? Mais c'est en abordant la Grèce qu'il vit la beauté dans sa simplicité magnifique. Il y vint tard. Les fables d'Ésope lui avaient d'abord assombri l'âme. Un professeur bossu les lui expliquait, bossu de corps et d'âme, voyez-vous, Tersite conduisant les jeunes galanes dans les bosquets des muses. Le petit bonhomme ne concevait pas cela. On croira que son pédagogue bossu, se vouant spécialement à expliquer les fables d'Ésope, était admissible dans cet emploi. Non pas. C'était un faux bossu. Un bossu géant, sans esprit et sans humanité, enclin au mal et le plus injuste des hommes. Il ne valait rien, même pour expliquer les pensées d'un bossu. D'ailleurs, ces méchantes petites fables sèches qui portent le nom d'Ésope nous sont parvenues limées par un moine byzantin qui avait un crâne étroit et stérile sous sa tonsure. Je ne savais pas en 5e leur origine, et je me souciais peu de la savoir, mais je les jugeais exactement comme je les juge à présent. Après Ésope, on nous donna Homère. Je vis Thétis se lever comme une nuée blanche au-dessus de la mer. Je vis Nausicaa et ses compagnes, et le palmier de Délos, et le ciel et la terre et la mer, et le sourire en larmes d'Andromaque. Je compris, je sentis. Il me fut impossible pendant 6 mois de sortir de l'Odyssée. Ce fut pour moi la cause de punitions nombreuses. Mais que me faisaient les pinsommes ? J'étais avec Ulysse sur la mer violette. Je découvris ensuite les tragiques. Je ne compris pas grand-chose à Eschyle, mais Sophocle et Euripide m'ouvrirent le monde enchanté des héros et des héroïnes et m'initièrent à la poésie du malheur. À chaque tragédie que je lisais, c'était des joies et des larmes nouvelles et des frissons nouveaux. Alceste et Antigone me donnèrent les plus nobles rêves qu'un enfant ait jamais eus. La tête enfoncée dans mon dictionnaire, sur mon pupitre barbouillé d'encre, je voyais des figures divines, des bras d'ivoire tombant sur des tuniques blanches, et j'entendais des voix plus belles que la plus belle musique qui se lamentait harmonieusement. Cela encore me causa de nouvelles punitions. Elles étaient justes. Je m'occupais de choses étrangères à la classe. Hélas, l'habitude m'en reste. Dans quelque classe de la vie qu'on me mette pour le reste de mes jours, je crains bien, tout vieux, d'encourir encore le reproche que me faisait mon professeur de seconde. Monsieur Pierre Nozière, vous vous occupez de choses étrangères à la classe. Mais c'est surtout par les soirs d'hiver, au sortir du collège, que je m'enivrais dans les rues de cette lumière et de ce chant. Je lisais sous les réverbères et devant les vitrines éclairées des boutiques les vers que je me récitais ensuite à demi-voix en marchant. L'activité des soirs d'hiver régnait dans les rues étroites du faubourg que l'ombre enveloppait déjà. Il m'arriva bien souvent de heurter quelques patronets qui, sa manne sur la tête, menaient son rêve comme je menais le mien, ou de sentir subitement à la joue la laine chaude d'un pauvre cheval qui tirait sa charrette. La réalité ne me gâtait point mon rêve, parce que j'aimais bien mes vieilles rues de faubourg dont les pierres n'avaient vu grandir. Un soir, je lus des vers d'Antigone à la lanterne d'un marchand de marrons, et je ne pus pas, après un quart d'heure de siècle, me rappeler ces vers. Tombeau, lit nuptial, sans revoir, l'Auvergnat soufflant dans un sac de papier, et sans sentir à mon côté la chaleur de la poêle où rôtissaient les marrons. Et le souvenir de ce brave homme se mêle harmonieusement dans ma mémoire aux lamentations de la Vierge Thébaine. Ainsi, j'appris beaucoup de vers. Ainsi, j'acquis des connaissances utiles et précieuses. Ainsi, je fis mes humanités. Ma manière était bonne pour moi, elle ne vaudrait plus rien pour un autre. Je me garderais bien de la recommander à personne. Au reste, je dois vous confesser que, nourri d'Homère et de Sophocle, je manquais de goût quand j'entrais en rhétorique. C'est mon professeur qui me le déclara, et je le crois volontiers. Le goût qu'on a ou qu'on montre à 17 ans est rarement bon. Pour améliorer le mien, mon professeur de rhétorique me recommanda l'étude attentique des œuvres complètes de Casimir de la Vigne. Je ne suivis point sa recommandation. Sophocle m'avait fait prendre un certain pli que je ne pus défaire. Ce professeur de rhétorique ne me paraissait point, ne me paraît point encore un fin lettré. Mais il avait, avec un esprit chagrin, un caractère droit et une âme fière. S'il nous enseigna quelques hérésies littéraires, il nous montra du moins, par son exemple, ce que c'est qu'un honnête homme. Cette science a bien son prix. M. Charron était respecté de tous ses élèves, car les enfants apprécient avec une parfaite justesse la valeur morale de leur maître. Ce que je pensais il y a 25 ans de l'injurieux Bossu et de l'honnête Charron, je le pense encore aujourd'hui. Mais le soir tombe sur les platanes du Luxembourg, et le petit fantôme que j'avais évoqué se perd dans l'ombre. Adieu, petit moi que j'ai perdu, et que je regretterai à jamais si je ne te retrouvais embellie dans mon fils. La forêt de Myrte. J'avais été un enfant très intelligent, mais vers 17 ans je devins stupide. Ma timidité était telle alors que je ne pouvais ni saluer ni m'asseoir en compagnie sans que la sueur me mouillât le front. La présence des femmes me jetait dans une sorte d'effarement. J'observais à la lettre ce précepte de l'imitation de Jésus-Christ qu'on m'avait appris dans je ne sais quelle basse classe et que j'avais retenu parce que les vers, qui sont de Corneille, m'en avaient semblé bizarres. Fuis avec un grand soin la pratique des femmes. Ton ennemi par là peut savoir ton défaut. Recommande en commun aux bontés du Très-Haut celles dont les vertus embellissent les âmes, et sans en vouloir jamais qu'avec un prompt adieu, aime-les toutes, mais en Dieu. Je suivais le conseil du vieux moine mystique, mais si je le suivais, c'était bien malgré moi, j'aurais voulu voir les femmes avec un adieu moins prompt. Parmi les amies de ma mère, il en était une auprès de laquelle j'aurais particulièrement aimé me tenir et causer longtemps. C'était la veuve d'un pianiste mort jeune et célèbre, Adolphe Gans. Elle se nommait Alice. Je n'avais jamais bien vu ni ses cheveux, ni ses yeux, ni ses dents. Comment bien voir ce qui flotte, brille et étincelle ébloui? Mais elle me semblait plus belle que le rêve et d'un éclat surnaturel. Ma mère avait coutume de dire qu'aller détailler les traits de Madame Gans n'avait rien d'extraordinaire. Mais chaque fois que ma mère exprimait ce sentiment, mon père secouait la tête avec incrédulité. C'est qu'il faisait sans doute comme moi, cet excellent père, il ne détaillait pas les traits de Madame Gans. Et, quel qu'en fût le détail, l'ensemble en était charmant. N'en croyez point, maman, je vous assure que Madame Gans était belle. Madame Gans m'attirait. La beauté est une douce chose. Madame Gans me faisait peur. La beauté est une chose terrible. Un soir que mon père recevait quelques personnes, Madame Gans entra dans le salon avec un air de bonté qui m'encouragea un peu. Elle prenait quelquefois au milieu des hommes l'air d'une promeneuse qui jette à manger aux petits oiseaux. Puis, tout à coup, elle affectait une attitude hautaine. Son visage se glaçait et elle agitait son éventail avec une lenteur maussade. Je ne m'expliquais pas cela. Je me l'explique aujourd'hui parfaitement. Madame Gans était coquette, voilà tout. Je vous disais donc qu'en entrant dans le salon ce soir-là, elle jeta à tout le monde, et même au plus humble, qui était moi, quelques miettes de son sourire. Je ne la quittai point du regard, et je crus surprendre dans ses beaux yeux une expression de tristesse. J'en fus bouleversé. C'est que, voyez-vous, j'étais une bonne créature. On la pria de jouer au piano. Elle joua un nocturne de Chopin. Je n'ai jamais rien entendu de si beau. Je croyais sentir les doigts même d'Alice, ses doigts longs et blancs dont elle venait d'ôter les bagues, effleurer mes oreilles d'une céleste caresse. Quand elle eut fini, j'allai d'instinct et sans y penser la ramener à sa place et m'asseoir auprès d'elle. En sentant les parfums de son sein, je fermai les yeux. Elle me demanda si j'aimais la musique. Sa voix me donna le frisson. Je rouvris les yeux et je vis qu'elle me regardait. Ce regard me perdit. « Oui, monsieur, » répondis-je dans mon trouble. Puisque la terre ne s'entr'ouvrit pas en ce moment pour m'engloutir, c'est que la nature est indifférente aux vœux les plus ardents des hommes. Je passai la nuit dans ma chambre à m'appeler idiot et brute et à me donner des coups de poing par le visage. Le matin, après avoir longuement réfléchi, je ne me réconciliais pas avec moi-même. Je me disais, vouloir exprimer à une femme qu'elle est belle, qu'elle est trop belle, et qu'elle sait tirer du piano des soupirs, des sanglots et des larmes véritables, et ne pouvoir lui dire que ces deux mots « oui, monsieur ». Mais c'est être dénué plus que de raison du don d'exprimer sa pensée. Pierre Nozière, tu es un infirme, va te cacher. Hélas, je ne pouvais pas même me cacher tout à fait. Il me fallait paraître en classe, à table, en promenade. Je cachais mes bras, mes jambes, mon cou, comme je pouvais. On me voyait encore et j'étais bien malheureux. Avec mes camarades, j'avais au moins la ressource de donner et de recevoir des coups de poing. C'est une attitude, cela. Mais avec les amis de ma mère, j'étais pitoyable. J'éprouvais la bonté de ce précepte de l'imitation. Fuis avec un grand soin la pratique des femmes. Quel conseil salutaire, me disais-je. Si j'avais fui Madame Gans dans cette soirée funeste où jouant un nocturne avec tant de pensées et de poésie, elle fit passer dans l'air de voluptueux frissons. Si je l'avais fui alors, elle ne m'aurait pas dit « Aimez-vous la musique ?» et je ne lui aurais pas répondu « Oui, monsieur. » Ces deux mots « Oui, monsieur » me tintaient sans cesse aux oreilles. Le souvenir m'en était toujours présent, ou plutôt, par un horrible phénomène de conscience, il me semblait que, le temps s'étant subitement arrêté, je restais indéfiniment à l'instant où venait être articulée cette parole irréparable « Oui, monsieur. » Ce n'était pas un remords qui me torturait. Le remords est doux auprès de ce que je ressentais. Je demeurai dans une sombre mélancolie pendant 6 semaines, au bout desquelles mes parents eux-mêmes s'aperçurent que j'étais imbécile. Ce qui complétait mon imbécilité, c'est que j'avais autant d'audace dans l'esprit que de timidité dans les manières. D'ordinaire, l'intelligence des jeunes gens est rude. La mienne était inflexible. Je croyais posséder la vérité. J'étais violent et révolutionnaire quand j'étais seul. Seul, quel gaillard, quel luron je faisais. J'ai bien changé depuis lors. Maintenant, je n'ai pas trop peur de mes contemporains. Je me mets autant que possible à ma place entre ceux qui ont plus d'esprit que moi et ceux qui en ont moins, et je compte sur l'intelligence des premiers. Par contre, je ne suis plus trop rassuré en face de moi-même. Mais je vous conte une histoire de ma 17e année. Vous concevez qu'alors cette timidité et cette audace mêlées faisaient de moi un être tout à fait absurde. 6 mois après l'affreuse aventure que je vous ai dite, et ma rhétorique étant terminée avec quelque honneur, mon père m'envoya passer les vacances au Grand Air. Il me recommanda à un de ses plus humbles, de ses plus dignes confrères, à un vieux médecin de campagne, lequel pratiquait à Saint-Patrice. C'est là que j'allais. Saint-Patrice est un petit village de la côte normande qui s'adosse à une forêt et qui descend doucement vers une plage de sable resserrée entre 2 falaises. Cette plage était alors sauvage et déserte. La mer, que je voyais pour la première fois, et les bois dont le calme était si doux, me causèrent d'abord une sorte de ravissement. Le vague des eaux et des feuillages était en harmonie avec le vague de mon âme. Je courais à cheval dans la forêt, je me roulais à demi-nu sur la grève, plein de désir de quelque chose d'inconnu que je devinais partout et que je ne trouvais nulle part. Seul tout le jour, je pleurais sans cause. Il m'arrivait quelquefois de sentir tout à coup mon cœur se gonfler si fort que je croyais mourir. Enfin, j'éprouvais un grand trouble. Mais est-il en ce monde un calme qui vaille l'inquiétude que je sentais? Non. J'en atteste les bois dont les branches cinglaient mon visage. J'en atteste la falaise où j'allais voir le soleil descendre dans la mer. Rien ne vaut le mal dont j'étais alors tourmenté. Rien ne vaut les premiers rêves des hommes. Si le désir embellit toutes les choses sur lesquelles il se pose, le désir de l'inconnu embellit l'univers. J'ai toujours eu, avec assez de finesse, d'étranges naïvetés. J'aurais peut-être ignoré pendant bien des jours encore la cause de mon trouble et de mes vagues désirs. Mais un poète me la révéla. J'avais pris au poète dès le collège un goût que j'ai heureusement gardé. À 17 ans, j'adorais Virgile, et je le comprenais presque aussi bien que si mes professeurs ne me l'avaient pas expliqué. En vacances, j'avais toujours un Virgile dans ma poche. C'était un méchant petit Virgile anglais de Bliss, je l'ai encore. Je le garde aussi précieusement qu'il m'est possible de garder quelque chose. Des fleurs desséchées s'en échappent à chaque fois que je l'ouvre. Les plus anciennes de ces fleurs viennent de ce bois de Saint-Patrice où j'étais si heureux et si malheureux à 17 ans. Or, un jour, que je passais seul à l'orée de ce bois, respirant avec délice l'odeur des foins coupés, tandis que le vent qui soufflait de la mer mettait du sel sur mes lèvres, j'éprouvais un invincible sentiment de lassitude. Je m'assis à terre et regardais longuement les nuages du ciel. Puis, par habitude, j'ouvris mon Virgile et je lus. Hic, quos durus amor, là ce qu'un impitoyable amour a fait périr en une langueur cruelle, vont cachés dans des allées mystérieuses, et la forêt de myrte étend son ombrage alentour. Et la forêt de myrte étend son ombrage. Oh, je la connaissais, cette forêt de myrte. Je l'avais en moi tout entière, mais je ne savais pas son nom. Virgile venait de me révéler la cause de mon mal. Grâce à lui, je savais que j'aimais. Mais je ne savais pas encore qui j'aimais. Cela me fut révélé l'hiver suivant, quand je revis Madame Gans. Vous êtes sans doute plus perspicace que je le fus, vous l'avez deviné. C'est Alice que j'aimais. Admirez cette fatalité. J'aimais précisément la femme devant laquelle je m'étais couvert de ridicule et qui devait penser de moi pis même que du mal. Il y avait de quoi se désespérer. Mais alors le désespoir était hors d'usage. Pour s'en être trop servi, nos pères l'avaient usé. Je ne fis rien de terrible ni de grand. Je ne m'allais point cacher sous les arceaux ruinés d'un vieux cloître. Je ne promenais point ma mélancolie dans les déserts. Je n'appelais point les aquilons. Je fus seulement très malheureux et passai mon baccalauréat. Mon bonheur même était cruel. C'était de voir et d'entendre Alice et de penser. Oh, elle est la seule femme au monde que je puisse aimer. Je suis le seul homme qu'elle ne puisse souffrir. Quand elle déchiffrait au piano, je tournais les pages en regardant les cheveux légers qui se jouaient sur son cou blanc. Mais pour ne pas m'exposer à lui dire encore une fois « Oui, monsieur », je fis vœu de ne plus lui adresser la parole. Des changements survinrent bientôt dans ma vie et je perdis Alice de vue sans avoir violé mon serment. J'ai retrouvé Madame Gans aux eaux dans la montagne cet été. Un demi-siècle pèse aujourd'hui sur la beauté qui me donna mes premiers troubles les plus délicieux. Mais cette beauté ruinée a de la grâce encore. Je me relevais moi-même en cheveux gris du vœu de mon adolescence. « Bonjour, madame, » dis-je à Madame Gans. Et cette fois, hélas, l'émotion des jeunes années ne troubla ni mon regard ni ma voix. Elle me reconnut sans trop de peine. Nos souvenirs nous unirent et nous nous aidâmes l'un l'autre à charmer par des causeries la vie banale de l'hôtel. Bientôt, des liens nouveaux se formèrent d'eux-mêmes entre nous. Et ces liens ne seront que trop solides. C'est la communauté des fatigues et des peines qui les forme. Nous causions tous les matins sur un banc vert au soleil de nos rhumatismes et de nos deuils. C'était matière à longs propos. Pour nous divertir, nous mélangions le passé au présent. « Que vous fûtes belle, lui dis-je un jour, madame, et combien admirée !»« Il est vrai, me répondit-elle en souriant. Je puis le dire maintenant que je suis une vieille femme. Je plaisais. » Ce souvenir me console de vieillir. J'ai été l'objet d'hommages assez flatteurs, mais je vous surprendrais bien si je vous disais quel est de tous les hommages celui qui m'a le plus touché. Oh, je suis curieux de le savoir. Eh bien, je vais vous le dire. Un soir, il y a bien longtemps, un petit collégien éprouva en me regardant un tel trouble qu'il répondit « Oui, monsieur » à une question que je lui faisais. Il n'y a pas de marque d'admiration qui m'ait autant flatté et mieux contenté que ce « Oui, monsieur » et l'air dont il était dit. L'ombre. Il m'arriva dans ma 20e année une aventure extraordinaire. Mon père m'ayant envoyé dans le Bas-Maine pour régler une affaire de famille, je partis un après-midi de la jolie petite ville d'Ernée pour aller à 7 lieues de là visiter dans la pauvre paroisse de Saint-Jean la maison maintenant déserte qui abrita pendant plus de 200 ans ma famille paternelle. On entrait en décembre. Il neigeait depuis le matin. La route qui cheminait entre des haies vives était défoncée en beaucoup d'endroits et nous avions grand-peine, mon cheval et moi, à éviter les fondrières. Mais à 5 ou 6 kilomètres de Saint-Jean, je la trouvais moins mauvaise et malgré un vent furieux qui se leva et la neige qui me cinglait le visage, je pris le galop. Les arbres qui bordaient la route fuyaient à mes côtés comme des ombres difformes et douloureuses dans la nuit. Ils étaient horribles, ces arbres noirs, la tête coupée et couverts de tumeurs et de plaies, les bras tordus. On les nomme dans le Bas-Maine des émousses. Ils me faisaient une sorte de peur à cause de ce qu'un vicaire de Saint-Marcel-d'Ernay m'avait conté la veille. Un de ces arbres, m'avait dit le vicaire, un de ces vieux mutilés du bocage, un châtaignier étêté depuis plus de 200 ans et creux comme une tour, fut fendu du haut en bas par la foudre le 24 février 1849. Alors à travers la fente, on vit dedans un squelette d'homme qui se tenait tout debout, ayant à son côté un fusil et un chapelet. Sur une montre trouvée au pied de cet homme, on lut le nom de Claude Nozière. Ce Claude, grand-oncle de mon grand-père, fut en son vivant contrebandier et brigand. En 1794, il prit part à la chouannerie dans la bande de Treton, 10 jambes d'argent. Blessé grièvement, poursuivi, traqué par les Bleus, il alla se cacher et mourir dans le creux de cette émousse. Ni ami ni ennemi ne surent ce qu'il était devenu, et c'est un demi-siècle après sa mort que le vieux chouan fut exhumé par un coup de tonnerre. Je songeais à lui, en voyant fuir les émousses de deux côtés du chemin, et j'allongeais l'allure de mon cheval. Il était nuit noire quand j'arrivais à Saint-Jean. J'entrais dans l'auberge dont l'enseigne faisait grincer tristement sa chaîne au vent, dans l'ombre. Et après avoir conduit moi-même mon cheval à l'écurie, j'entrai dans la salle basse et me jetai dans un vieux fauteuil à oreilles au coin de la cheminée. Tandis que je me réchauffais ainsi, je pus voir à la clarté de la flamme le visage de mon hôtesse. C'était celui d'une horrible vieille. Sur sa face, déjà couverte d'un peu de terre, on ne voyait qu'un nez rouge et les yeux morts dans des paupières saignantes. Elle m'examinait avec défiance, comme un étranger. C'est pourquoi je lui dis, pour la rassurer, mon nom qu'elle devait bien connaître. Elle répondit en secouant la tête qu'il n'y avait plus de nausière. Pourtant, elle voulut bien m'apprêter à souper. Elle jeta un fagot dans l'âtre et sortit. J'étais triste et las et tourmenté d'une angoisse indicible. Des images sombres et violentes venaient m'assaillir. Je m'assoupis un moment, mais dans mon demi-sommeil, je continuais d'entendre dans la trémie les gémissements du vent dont les rafales soulevaient sur mes bottes les cendres du foyer. Quand, au bout de quelques minutes, je rouvris les yeux, je vis ce que je n'oublierai jamais. Je vis, distinctement, au fond de la chambre, sur le mur blanchi à la chaux, une ombre immobile. C'était l'ombre d'une jeune fille. Le profil en était si doux, si pur et si charmant, que je sentis, en le voyant, toute ma fatigue et toute ma tristesse se fondre en un sentiment délicieux d'admiration. Je la contemplai, ce me semble, pendant une minute. Il se peut toutefois que mon ravissement ait été plus ou moins long, car je n'ai aucun moyen d'en estimer la véritable durée. Je tournai ensuite la tête pour voir celle qui faisait une si belle ombre. Il n'y avait personne dans la chambre. Personne que la vieille cabaretière occupée à mettre une nappe bien blanche sur la table. De nouveau, je regardais le mur, l'ombre n'y était plus. Alors quelque chose comme une peine d'amour me prit le cœur, et la perte que je venais de faire me désola. Je réfléchis quelques instants avec une entière lucidité, puis « La mère, dis-je, la mère, qui donc était là tout à l'heure ?» Mon hôtesse, surprise, me dit qu'elle n'avait vu personne. Je courus à la porte. La neige, qui tombait abondamment, couvrait le sol et aucun pas n'était marqué dans la neige. « La mère, vous êtes sûre qu'il n'y a point une femme dans la maison ?» Elle répondit qu'il n'y avait qu'elle. « Mais cette ombre, m'écriai-je !» Elle se tut. Alors je m'efforçai de déterminer, d'après les principes d'une exacte physique, la place du corps dont j'avais vu l'ombre, et montrant du doigt cette place, « Elle était là, là, vous dis-je !» La vieille s'approcha, une chandelle à la main, et arrêta sur moi ses horribles yeux sans regard, puis « Ah, je vois cette heure, dit-elle, que vous ne me trompez pas et que vous êtes bien un osière. Seriez-vous point le fils à Jean, le docteur de Paris ? J'ai connu son oncle, le grand René. Il voyait lui aussi une femme que personne ne voyait. Il faut croire que c'est une punition de Dieu sur toute la famille, pour la faute de Claude Le Chouan, qui perdit son âme avec la femme du boulanger. Parlez-vous, lui dis-je, de Claude, dont le squelette fut trouvé dans le tronc creux d'un émousse, avec un fusil et un chapelet ? Bon jeune monsieur, le chapelet ne lui servit de rien. Il s'était donné pour une femme. » La vieille ne m'en dit pas davantage. Je pus à peine goûter le pain, les œufs, le lard et le cidre qu'elle me servit. Mes yeux se tournaient sans cesse vers le mur où j'avais vu l'ombre. Oh, mais je l'avais bien vue ! Elle était fine et plus nette que n'aurait dû l'être une ombre produite naturellement par la clarté tremblante de l'âtre et la flamme fumeuse d'une chandelle. Le lendemain, je visitai la maison déserte où vécurent en leur temps Claude et René. Je parcourus le pays, j'interrogeai le curé, mais je n'appris rien qui pût me faire connaître la jeune fille dont j'avais vu l'ombre. Aujourd'hui encore, je ne sais s'il faut en croire la vieille cabaretière. Je ne sais si quelque fantôme me visitait dans l'âpre solitude du bocage les paysans dont je sors, et si l'ombre héréditaire qui hantait mes aïeux farouches et mystiques ne s'est pas montrée avec une grâce nouvelle à leur enfant rêveur. Ai-je vu dans l'auberge de Saint-Jean le démon familier des nausières, ou plutôt ne me fut-il pas annoncé dans cette nuit d'hiver que ma part des choses de ce monde serait la meilleure et que l'indulgente nature m'avait accordé le plus cher de ses dons, le don des rêves?